Alors Dominique, la semaine dernière, j'ai entendu parler de cette, alors pour certains c'est un scandale, de cette prime que l'on donnait à des médecins pour venir s'installer.
Oui.
Alors elle peut aller jusqu'à 60 000 euros.
Ah.
C'est 50 000 euros, c'est la caisse primaire d'assurance maladie qui propose à un médecin, s'il va s'installer, soi-disant dans un désert médical, 50 000 euros. Alors, dans les émissions, hein, parce que moi j'ai vu ça dans une émission, on dit n'importe quoi. Je suis allée chercher quand même. Parce qu'il disait que 50 000 euros, tu avais 10 000 euros par an. C'est archi faux. On a les 50% à la signature, et ensuite on a 50% un an plus tard, après votre installation. Alors, à la seule condition, c'est qu'il faut travailler 4 jours par semaine.
Ouais. Mmh.
4 jours par semaine minimum. Parce qu'après, c'est dégressif si vous travaillez 3 jours et demi, 3 jours, 2 jours, etc. Et on vous demande également si vous ne voulez pas aller faire des consultations dans un hôpital de proximité. Là, vous aurez 1250 euros en plus par mois. Et en plus, si vous voulez prendre un stagiaire, un interne, etc., c'est 300 euros par mois que l'on vous donne en supplément. Tout ça pour essayer d'éradiquer ce désert médical en France. Moi, je ne savais pas que ça existait, toutes ces primes.
Bah, sans doute, il faut faire quelque chose, de toute façon, par rapport à ces déserts médicaux. Mais c'est plutôt en revitalisant la ruralité qu'on ferait en sorte que d'eux-mêmes, des médecins pourraient trouver intéressant de venir s'y installer, parce que les primes, les carottes comme ça qu'on met sous le nez, si j'ai bien compris ce que vous nous avez brillamment expliqué, Fabienne, c'est qu'ils touchent la moitié là, à l'arrivée, l'autre moitié un an après, donc 18 mois après, ils peuvent se tirer.
Non, alors si c'est pas, il faut qu'ils restent minimum 5 ans.
Ah bah c'est déjà
s'ils ne font pas leurs 5 ans, ils sont obligés de rembourser au prorata.
Non, ouais, très bien.
Non, il ne faut peut-être pas exagérer. Ce qui me choque, c'est d'être obligé de donner de l'argent pour venir travailler.
Ben oui,
moi, ça me choque. Ça me choque, mais en même temps, la consultation, elle a pas augmenté. Hein. Mmh. On est toujours à 25 euros pour un médecin généraliste.
Mais voilà, c'est le fond du... On ne peut pas entretenir ce système-là éternellement. Donc le vrai enjeu politique, c'est de revitaliser la ruralité et non pas faire comme on a fait sur la base de Sington, de Terra Nova et tout ça, de dire que finalement, il allait y avoir des conglomérats de grandes métropoles hein, qui allaient concentrer les activités humaines et puis finalement que la campagne, ça allait être là pour se remplir les poumons à la chlorophylle les week-ends et que ça n'existait plus. Enfin voilà. Et puis cette entreprise qui a consisté à faire ce qu'on avait fait avec l'industrie, c'est-à-dire la désindustrialisation, et puis on est en bonne voie, j'espère que ça va se corriger pour la destruction progressive de l'agriculture française, qui est quand même bien entamée dans les processus de concentration de la production.
Puisqu'ils font des jardins, ils font des jardins sur les toits. En ville, ils font leur jardin sur le toit.
Oui,
donc,
enfin bon, ça c'est plutôt gadget, mais enfin voilà, c'est l'équilibre des territoires qui est extraordinaire. Je ne sais pas ce que dit Monsieur Bayrou avec ses 300 bonshommes là de son
il
plan.
Il fait quoi là, Monsieur Bayrou?
C'est notre haut commissaire au plan quand même. Alors c'est ça m'a amusé dans l'affaire des cabinets privés, vous savez, des conseils de cabinets privés comme McKinsey et tout ça. Très amusé. Mais nous, on a un haut commissaire au plan, on a fait une structure.
En fait, je crois qu'Emmanuel Macron il s'est rendu compte qu'il servait à rien, Monsieur Bayrou, qu'il n'était pas à la hauteur.
Monsieur Bayrou?
Oui.
Oh bah dites donc, ça fait longtemps qu'il est pas...
mais Monsieur Macron, je pense que quand il l'a nommé à ce poste, il s'en est pas rendu compte.
Il s'en est très bien rendu compte, mais il a voulu avoir la paix. Voilà, donc je vais lui donner...
Il avait pris les voix pendant la présidentielle, lui a promis un poste, et il lui a donné. Voilà. Il tient ses promesses,
donc,
Monsieur Macron.
Et donc, comme il y avait cette histoire de parlementaire européen qui empêchait Monsieur Macron de devenir un de nos plus brillants ministres du quinquennat, ils ont donné le haut commissariat au plan. Mais si on a un haut commissariat au plan, c'est bien pour faire ce qu'on demande à des cabinets privés, de conseils, en fait. Et alors, ça m'a amusé beaucoup. Il y avait nos confrères de l'Ouest-France qui ont interviewé quelqu'un qui a travaillé dans ces derniers mois dans un cabinet de conseil, McKinsey d'ailleurs, voilà. Et alors, quand on entend cette personne, il ne se serait occupé que de logistique. Sauf que c'est des cabinets de conseil, c'est pas des cabinets de logistique.
C'est quoi en logistique?
Bah, c'est-à-dire ils s'occupaient pour les
passer les documents.
Non, les documents, ce serait pas ça pour les doses de vaccins, enfin ces choses-là.
Ah.
Et alors la dernière question, alors j'ai trouvé ça m'a fait hurler de rire. C'est-à-dire le journaliste fait son boulot, il dit mais n'y a-t-il pas un risque de dépossession des données concernant des Français à des entreprises américaines, au profit d'entreprises américaines? Et là, la réponse, elle est fantastique. Ils nous prennent pour se foutre de notre gueule, ils sont très très bons. La réponse, elle est fabuleuse. Aucun risque, c'est absurde, parce que tous les intervenants, tous les opérants de McKinsey France sont français. La boîte, elle est américaine. Donc c'est la boîte qui détient les données, c'est pas les opérants. La boîte détient les données, elle est américaine. Et sauf erreur de ma part, mais je ne pense pas commettre d'erreur, toute société américaine, depuis le 11 septembre et tout ça, doit transmettre les données dont elle dispose, y compris les données qu'elle gagne à l'étranger, au gouvernement, à l'État fédéral américain. C'est-à-dire que les données collectées par les Français par une boîte américaine arrivent nécessairement, inévitablement, au siège aux États-Unis. Le siège aux États-Unis, McKinsey, c'est le Delaware, l'État de M. Biden, comme par hasard, Delaware, parce qu'on ne paie pas d'impôts au Delaware. Voilà. Et donc, ça arrive.
Donc, ils payent des impôts nulle part, ces gens?
Bah, pas, oui, c'est à peu près, quoi. Ça doit être à peu près ça. Et donc, ces données-là, elles arrivent évidemment au Delaware, au siège social, et de là, elles filtrent évidemment à l'État fédéral américain. Donc, nous dire qu'il n'y a pas de danger que les données arrivent aux mains des Américains parce que les opérants de McKinsey France sont français, c'est nous prendre pour des cons. Une fois de plus. Enfin, c'est comme nous expliquer que finalement, derrière la somme de presque 1 milliard de l'année, c'est parce que il y a eu la crise. Enfin, ces budgets-là ont augmenté à cause de la crise. En fait, le rapport du Sénat que j'ai lu. Le rapport du Sénat que j'ai lu ne dit pas ça, il dit le contraire. Il dit qu'il n'y a que 40 millions qui ont été générés par la crise et que le reste, l'augmentation, elle est dans d'autres domaines. C'est tout à fait. Puis alors, il y a Madame de Montchalin, que j'ai adoré sa conférence de presse. J'ai suivi sa conférence de presse pour expliquer finalement que tout ça, c'était un fantasme. Et alors, c'est la Macronie qu'on adore. Qu'est-ce qu'elle elle déclare, et j'ai noté sa phrase quelque part, je ne sais plus où, « Nous allons apprendre à beaucoup de gens à lire le rapport du Sénat ». C'est-à-dire, là encore, on est trop bête, vous comprenez Fabienne. On ne sait pas, on est trop bête pour lire le rapport du Sénat. Hein, on l'a mal lu, le rapport du Sénat. Non mais attendez, ils vont...
Oui, c'est-à-dire qu'elle va nous le faire à sa sauce.
Oui, non, mais puis alors, il faut absolument faire de la pédagogie, tellement nous sommes des enfants. On a entendu le mot pédagogie, j'en ai jusqu'ici. Ce gouvernement, cette mouvance politique de la majorité n'a cessé de nous prendre pour des enfants, de nous infantiliser en nous bombardant de sa pédagogie. Pédagogie qui repose le plus souvent sur des interprétations biaisées de la réalité.
Comme vous avez vu, c'était au Sénat ou à l'Assemblée l'audition du directeur de la prison d'Arles.
Oui.
Oh bah moi ça m'a fait rire. Vous l'avez vu?
Oui, j'ai vu des images.
Oh, le monsieur en larmes. Oh. Mmh. Peut-être pas exagéré quand même. Oh.
Oui. J'ai trouvé qu'il avait un comportement bizarre. C'est déjà comme ça.
Ah bah vachy, je suis d'accord. Un peu débraillé, la cravate vachy, complètement dénouée, etc. Peut-être qu'ils sont un peu en surchauffe. Hein.
Oui, un peu avachi là-dessus. Comme ça. Bon, enfin bon. Voilà.
Mais c'est bizarre, là, il a pratiquement été entendu tout de suite. Hein.
Oui.
Cette commission a été très rapide. Hein,
c'est un peu factuel, quoi. Donc, il voulait simplement entendre sur les faits. Donc, voilà.
Comme il n'y était pas.
Donc, après, il va y avoir des commissions qui vont entendre les résultats de l'enquête. les résultats de l'enquête, quoi. Là, c'était pas l'enquête, c'était l'entretien, ce que pouvait en dire le directeur du lieu. Voilà, c'était ça. Bon.
Voilà. Ouais, je crois que c'est pour calmer un peu.
Voilà, c'est ça. Bah, ça a réussi à calmer, hein, l'accord.
Pour calmer nos corps.
Ils sont drôlement calmés. Il y a encore 15 blessés le week-end dernier.
Ah, mais quand je vois. Comment les réactions des personnes. Ah ben moi j'irai plus jamais en Corse. Ah ouais. Ben moi j'irai plus là. Ils veulent l'indépendance, mais qu'ils aient l'indépendance.
Ouais, ils n'iront plus en Corse. Puis ils peuvent aller passer le week-end en Ukraine. Hein, si... Donc je plaisante. C'est pas de bon goût.
Ouais, ça c'est pas bien, Dominique.
C'est pas de bon goût, hein.
C'est pas bien du tout. C'est pas de bon goût. On se fait une pause, Dominique.
Oui.